Chapitre 10. Après la Marne. À la fin d'octobre, Louisa, Elena et Chichi revinrent de Biarritz. Elena eut beau leur dire que ce retour n'était pas prudent, que l'affaire de la Marne n'avait été pour les Français qu'un succès passager, que le cours de la guerre pouvait changer d'un moment à l'autre, et que par le fait, le gouvernement ne songeait pas encore à quitter Bordeaux. Mais les suggestions de la romantique demeurèrent sans résultat. Louisa ne pouvait se résigner à vivre plus longtemps loin de son mari, et Chichi avait hâte de revoir son petit soldat de sucre. Les trois femmes réintégrèrent donc l'hôtel de l'avenue Victor Hugo. Les 2 millions de Parisiens qui, au lieu de se laisser entraîner par la panique, étaient restés chez eux, avaient accueilli la victoire avec une sérénité grave. Personne ne s'expliquait clairement le cours de cette bataille, dont on n'avait eu connaissance que lorsqu'elle était déjà gagnée. Un dimanche, à l'heure où les habitants profitaient du bel après-midi pour faire leur promenade, ils avaient appris tout d'un coup par les journaux le grand succès des Alliés et le danger qu'ils venaient de courir. Ils se réjouirent, mais ils ne se départirent point de leur calme. 6 semaines de guerre avaient changé radicalement le caractère de cette population si turbulente et si impressionnable. Il fallut du temps pour que la capitale reprît son aspect d'autrefois. Mais enfin, des rues naguère désertes se repeuplèrent de passants, des magasins fermés se rouvrirent, des appartements silencieux retrouvèrent de l'animation. Marcel ne parla guère au sien de son voyage de Villeblanche. Pourquoi les attrister par le récit de tant d'horreurs? Il se contenta de dire à Louisa que le château avait beaucoup souffert du bombardement, que les obus avaient endommagé une partie de la toiture, et qu'après la paix, plusieurs mois de travail seraient nécessaires pour rendre le logis habitable. Le plaisir qu'éprouvait Marcel à se retrouver en famille fut vite gâté par la présence de sa belle-sœur. Depuis les derniers événements, Elena avait dans les yeux une vague expression de surprise, comme si le recul des armées impériales eût été un phénomène qui dérogea d'une façon extraordinaire aux lois les mieux établies de la nature. Et le problème de la bataille de la Marne lui tenait si fort à cœur qu'elle ne pouvait plus retenir sa langue. Elle se mit donc à contester la victoire française. À l'en croire, ce qu'on appelait la victoire de la Marne n'était qu'une invention des Alliés. La vérité, c'était que, pour de savantes raisons stratégiques, les généraux allemands avaient jugé à propos de reporter leur ligne en arrière. Pendant son séjour à Biarritz, elle s'était longuement entretenue de ce sujet avec diverses personnes de la plus haute compétence, notamment avec des officiers supérieurs des pays neutres, et aucun d'eux ne croyait à une réelle victoire des Français. Les troupes allemandes ne continuaient-elles pas à occuper de vastes territoires dans le nord et dans l'est de la France? À quoi donc avait servi cette prétendue victoire si les vainqueurs étaient impuissants à chasser de chez eux les vaincus? Marcel, interloqué par ces déclarations catégoriques, pâlissait de stupeur et de colère. Il l'avait vu, lui, vu de ses yeux, la victoire de la Marne, et les milliers d'Allemands enterrés dans le jardin et dans le parc de Villeblanche attestaient que les Français avaient remporté une grande victoire. Mais il avait beau rembarrer sa belle-sœur et se fâcher tout rouge, il était bien obligé de s'avouer à lui-même qu'il y avait quelque chose de spécieux dans les objections d'Héléna, et son âme en était profondément troublée. Louisa non plus n'était pas tranquille. Depuis que Jules s'était engagé, elle vivait dans les transes, et bientôt Chichi elle-même eut à s'inquiéter aussi au sujet de son fiancé. En revenant de Biarritz, elle s'était fait raconter par son petit soldat tous les périls auxquels elle imaginait que celui-ci avait été exposé, et le jeune guerrier lui avait décrit les poignantes angoisses éprouvées au bureau durant les jours interminables où les troupes se battaient aux environs de Paris. On entendait de si près la canonnade que le sénateur aurait voulu faire partir son fils pour Bordeaux. Mais celui-ci avait été beaucoup mieux inspiré. Le jour du grand effort, lorsque le gouverneur de la place avait lancé en automobile tous les hommes valides, le patriotisme l'avait emporté chez René sur tout autre sentiment. Il avait pris un fusil sans que personne le lui commandât, et il était monté dans une voiture avec d'autres employés du service auxiliaire. Arrivé sur le champ de bataille, il était resté plusieurs heures couché dans un fossé au bord d'un chemin, tirant sans distinguer sur quoi. Il n'avait vu que de la fumée, des maisons incendiées, des blessés, des morts. À l'exception d'un groupe de Uhlans prisonniers, il n'avait pas aperçu un seul Allemand. D'abord, cela suffit pour rendre Chichi fière d'être la promise d'un héros de la Marne. Mais ensuite, elle changea de sentiment. Quand elle était dans la rue avec René, elle regrettait qu'il ne fût que simple soldat et qu'il n'appartint qu'aux milices de l'arrière. Pis encore, les femmes du peuple, exaltées par le souvenir de leurs hommes qui combattaient sur le front, ou aigries par la mort d'un être cher, étaient d'une insolence agressive, de sorte qu'elle entendait souvent au passage de grossières paroles contre les embusqués. Au surplus, elle ne pouvait s'empêcher de se dire à elle-même que son frère, qui n'était qu'un Argentin, se battait sur le front, tandis que son fiancé, qui était un Français, se tenait à l'abri des coups. Ces réflexions pénibles la rendaient triste. René remarqua d'autant plus aisément la tristesse de Chichi qu'elle ne l'avait pas habitué à une mine morose, et il devina sans peine la raison de cette mauvaise humeur. Dès lors, sa résolution fut prise. Pendant 3 jours, il s'abstint de venir avenue Victor Hugo. Mais le 4e jour, il s'y présenta dans un uniforme flambant neuf, de cette couleur bleu horizon que l'armée française avait adoptée récemment. La mentonnière de son képi était dorée, et les manches de sa vareuse portaient un petit galon d'or. Il était officier. Grâce à son père, et en se prévalant de sa qualité d'élève de l'école centrale, il avait obtenu d'être nommé sous-lieutenant dans l'artillerie de réserve, et il avait aussitôt demandé à être envoyé en première ligne. Il partirait dans 2 jours. « Tu as fait cela !» s'écria Chichi enthousiasmé. « Tu as fait cela !» Elle le regardait pâle, avec des yeux agrandis qui semblaient le dévorer d'admiration. Puis, sans se soucier de la présence de sa mère, « Viens, mon petit soldat, viens, tu mérites une récompense. » Et elle lui jeta les bras autour du cou, lui plaqua sur les joues 2 baisers sonores, fut prise d'une sorte de défaillance et éclata en sanglots. Après la bataille de la Marne, Louisa et Helena eurent un redoublement de zèle religieux. Les deux mères étaient dévorées de soucis au sujet de leur fils, qui combattait pour des causes contraires sur le front de France. Et Chichi elle-même, lorsque René eut été envoyé dans la zone des armées, éprouva une crise de dévotion. Maintenant, Louisa ne courait plus tout Paris pour visiter un grand nombre de sanctuaires, comme si la multiplicité des lieux d'oraison devait augmenter l'efficacité des prières. Elle se contentait d'aller avec Chichi et Helena, soit à l'église Saint-Honoré-des-Laux, soit à la chapelle espagnole de l'avenue Friedland. Et elle avait même pour la chapelle espagnole une préférence, parce qu'elle y entendait souvent des dévotes chuchoter à côté d'elle dans la langue de sa jeunesse, et ses voix lui donnaient l'illusion d'être là comme chez elle, près d'un Dieu qui l'écoutait plus volontiers. Lorsque les 3 femmes priaient, agenouillées côte à côte, Louisa jetait de temps à autre sur Chichi un regard où il y avait un grain de mauvaise humeur. La jeune fille était pâle, songeuse, et tantôt elle fixait longuement sur l'autel des yeux estampés de bleu, tantôt elle courbait la tête comme sous le poids de pensées graves qui ne lui étaient point habituelles. Cette langueur ardente offusquait un peu la mère. Ce n'était probablement pas pour Jules que Chichi priait avec cette ardeur passionnée. Quant aux 2 sœurs, elles ne demandaient ni l'une ni l'autre à Dieu le salut de millions d'hommes aux prises sur les champs de bataille. Leurs prières, plus égoïstes, ne s'inspiraient que du seul amour maternel, n'avaient pour objet que le salut de leur fils, exposé peut-être en cet instant même à un péril mortel. Mais quand Louisa implorait le salut de Jules, ce qu'elle voyait mentalement, c'était le soldat que représentait une pâle photographie reçue des tranchées, la tête coiffée d'un vieux képi, le corps enveloppé d'une capote boueuse, les jambes serrées par des bandes de drap, la main armée d'un fusil, le menton assombri par une barbe mal rasée. Et quand Helena implorait le salut d'Otto et d'Hermann, l'image qu'elle avait dans l'esprit était celle de jeunes officiers coiffés du casque à pointe, vêtus de l'uniforme verdâtre, la poitrine barrée par les courroies qui soutenaient le revolver, les jumelles, l'étui pour les cartes, la taille serrée par le ceinturon auquel était suspendu le sabre. Si donc en apparence les vœux de l'une et de l'autre s'harmonisaient, dans un même élan de piété maternelle, il n'en était pas moins vrai qu'au fond ces vœux étaient opposés les uns aux autres, et qu'il y avait entre les prières des deux mères le même conflit qu'entre les armées ennemies. Ni Louisa ni Helena ne s'apercevaient de cette contradiction. Mais un jour que Marcel vit sa femme et sa belle-sœur sortir ensemble de l'église, il ne put s'empêcher de grommeler entre ses dents « C'est indécent, c'est se moquer de Dieu !» Et quoi ? Dans le sanctuaire où Louisa et tant d'autres mères françaises imploraient la protection divine pour leur fils, qui luttait contre l'invasion des barbares et qui défendait héroïquement la cause de la civilisation et de l'humanité, Helena osait solliciter du ciel la détestable réussite de son mari l'Allemand, qui employait toutes ses facultés d'énergumène à préparer l'écrasement de la France, et le criminel succès de ses fils, qui, le revolver en main, envahissaient les villages, assassinaient les habitants paisibles, et ne laissaient derrière eux que l'incendie et la mort. Oui, les prières de cette femme étaient impies, et ses invocations iniques offensaient la justice de Dieu. Et Marcel, avec la puérile superstition qu'éveille parfois dans les esprits les plus positifs la crainte du danger, allait jusqu'à s'imaginer que la sacrilège dévotion d'Helena pouvait causer à Jules un dommage. Qui sait ? Dieu, fatigué des demandes contradictoires qui lui arrivaient de ses mères inconsciemment hostiles, finirait sans doute par se boucher les oreilles et n'écouterait plus personne. À partir de ce jour, Marcel ne put s'empêcher de témoigner sans cesse à sa belle-sœur une sourde antipathie. La romantique s'offensa de cette animosité croissante qui, selon les circonstances, s'exprimait par des sarcasmes ou par des rebuffades. Elle résolut donc de quitter une maison où il était manifeste qu'on la considérait désormais comme une intruse. Sans parler à personne de son dessein, elle fit d'actives démarches. Elle réussit à obtenir un passeport pour la Suisse, d'où il lui serait facile de rentrer en Allemagne. Et un beau soir, elle annonça au Desnoyers qu'elle partait le lendemain. La bonne Louisa, peinée de cette fugue subite, ne laissa pas de comprendre qu'en somme cela valait mieux pour tout le monde. Et Marcel fut si content qu'il ne put s'empêcher de dire à sa belle-sœur, avec une ironie agressive, « Bon voyage et bien des compliments à Karl. Si le savant recul stratégique de vos généraux lui ôte toute espérance de venir prochainement nous voir à Paris, il n'est pas impossible que la non moins savante avance stratégique des nôtres nous procure un de ces jours le plaisir d'aller vous faire une petite visite à Berlin. » Ce qui tenait lieu à Marcel des longues stations dans les églises, c'était les fréquentes visites qu'il faisait à l'atelier de son fils pour avoir le plaisir d'y causer de Jules avec Argensola, lequel avait été promu à la fonction de conservateur de ce maigre musée en l'absence du peintre d'âme. La première fois qu'Argensola reçut la visite de Marcel, il dut entrecouper bizarrement ses paroles de bienvenue par des gestes qui tentaient à faire disparaître subrepticement un peignoir de femme oublié sur un fauteuil et un chapeau à fleurs qui coiffait un mannequin. Marcel ne fut pas dupe de cette gesticulation significative, mais il avait l'âme disposée à toutes les indulgences. Rien qu'à entendre la voix d'Argensola, le pauvre père avait pour ainsi dire la sensation de se trouver près de son fils, et ce qui lui facilitait encore une si douce illusion, c'était ce milieu familier où tous les objets avaient été mêlés à la vie de l'absent. Ils parlaient d'abord du soldat, se communiquaient l'un à l'autre les dernières nouvelles reçues du front. Marcel redisait par cœur des phrases entières des lettres de Jules, faisait même lire ses lettres au secrétaire intime. Mais Argensola ne montrait jamais celles qui lui étaient adressées, s'abstenait même d'en rapporter des citations textuelles, car le peintre y employait volontiers un style épistolaire qui différait trop de celui que les fils ont coutume d'employer quand ils écrivent à leurs parents. Après 2 mois de campagne, Jules, déjà préparé au métier des armes par la pratique de l'épée et protégé par le capitaine de sa compagnie, qui avait été son collègue au cercle d'escrime, venait d'être nommé sergent. « Quelle carrière !» s'écria Argensola, flatté de cette nomination, comme si elle l'eût personnellement couvert de gloire. Ah, votre fils est de ceux qui arrivent jeunes au plus haut grade, comme les généraux de la Révolution. Et il célébrait avec une éloquence dithyrambique les prouesses de son ami, non sans les embellir de quelques détails imaginaires. Jules, peu bavard, comme la plupart des braves qui vivent dans un continuel danger, lui avait raconté en quelques phrases pittoresques divers épisodes de guerre auxquels il avait pris part. Par exemple, le peintre soldat avait porté un ordre sous un violent bombardement. Il était entré le premier dans une tranchée prise d'assaut. Il s'était offert pour une mission considérée comme très périlleuse. Ces faits honorables, qui lui avaient valu une citation, mais qui, somme toute, n'avaient rien d'extraordinaire, prenaient des couleurs merveilleuses dans la bouche du bohème qui les glorifiait comme les événements les plus insignes de la guerre mondiale. À entendre ces récits épiques, le père tremblait de peur, de plaisir et d'orgueil. Après que les deux hommes s'étaient longuement entretenus de Jules, Marcel se croyait obligé de témoigner aussi quelque intérêt au panégyriste de son fils, et il interrogeait le secrétaire sur ce que celui-ci avait fait dans les derniers temps. « J'ai fait mon devoir, » répondait Argensola avec une évidente satisfaction d'amour-propre. « J'ai assisté au siège de Paris. » À vrai dire, dans son fort intérieur, il soupçonnait bien l'inexactitude de ce terme, car Paris n'avait pas été assiégé, mais les souvenirs de la guerre de 1870 l'emportaient sur le souci de la précision du langage, et il se plaisait à nommer « siège de Paris » les opérations militaires accomplies autour de la capitale pendant la bataille de la Marne. Au surplus, il avait pris ses précautions pour que la postérité n'ignorât pas le rôle qu'il avait joué en ces mémorables circonstances. On vendait alors dans les rues une affiche en forme de diplôme, dont le texte, entouré d'un encadrement d'or et rehaussé d'un drapeau tricolore, était un certificat de séjour dans la capitale pendant la semaine périlleuse. Argensola avait rempli les blancs d'un de ses diplômes en y inscrivant de sa plus belle écriture ses noms et qualités. Puis il avait fait apposer au bas de la pièce les signatures de deux habitants de la rue de la Pompe, un ami de la concierge et un cabaretier du voisinage. Et enfin il avait demandé au commissaire de police du quartier de garantir par son paraphe et par son sceau la respectabilité de ses honorables témoins. De cette manière, personne ne pouvait révoquer en doute qu'Argensola eût assisté au siège de Paris. L'assiégé racontait donc à Marcel ce qu'il avait vu dans les rues de la capitale en l'absence du châtelain. Et il avait vu des choses vraiment extraordinaires. Il avait vu en plein jour des troupeaux de bœufs et de brebis stationnés sur le boulevard, près des grilles de la Madeleine. Il avait vu l'avant-garde des Marocains traverser la capitale au pas gymnastique, depuis la porte d'Orléans jusqu'à la gare de l'Est, où ils avaient pris les trains qui les attendaient pour les mener à la grande bataille. Il avait vu des escadrons de spahis drapés dans des manteaux rouges et montés sur de petits chevaux nerveux et légers. Des tirailleurs mauritaniens coiffés de turbans jaunes. Des tirailleurs sénégalais à la face noire et à la chéchia rouge. Des artilleurs coloniaux. Des chasseurs d'Afrique, tous combattants de profession, aux profils énergiques, aux visages bronzés, aux yeux d'oiseaux de proie. Le long défilé de ces troupes s'immobilisait parfois des heures entières, pour laisser à celles qui les précédaient le temps de s'entasser dans les wagons. « Ils sont arrivés à temps, » disait Argensola avec autant de fierté que s'il avait commandé lui-même le rapide et heureux mouvement de ses troupes. « Ils sont arrivés à temps pour attaquer von Kluck sur les bords de l'Ourcq, pour le menacer d'enveloppement et pour le contraindre à déguerpir. » Quelques jours plus tard, il avait vu un autre spectacle beaucoup plus étrange encore. Toutes les automobiles de louage, environ 2000 voitures, avaient chargé des bataillons de zouaves à raison de 8 hommes par voiture, et cette multitude de chars de guerre était partie à toute vitesse, formant sur les boulevards un torrent qui, avec la scintillation des fusils et le flamboiement des bonnets rouges, donnait l'idée d'un cortège pittoresque, d'une sorte de noce interminable. Ce n'était pas tout. Au moment suprême, alors que le succès demeurait incertain et que le moindre accroissement de pression pouvait le décider, Gallieni avait lancé contre l'extrême droite de l'ennemi tout ce qu'il savait à peu près manier une arme, commis de bureau militaire, ordonnance des officiers, agents de police, gendarmes, pour donner la dernière poussée qui avait sauvé la France. Enfin, le dimanche, dans la soirée, tandis qu'Argensola se promenait au bois de Boulogne avec une de ses compagnes de siège, mais il ne fit point part de cette particularité à Marcel, il avait appris par les éditions spéciales des journaux que la bataille s'était livrée tout près de la ville et que cette bataille était une grande victoire. « Ah, monsieur Desnoyers, j'ai beaucoup vu et je puis raconter de grandes choses. » Le père de Jules était si content de ces conversations qu'il conçut pour le bohème une bienveillance bientôt traduite par des offres de service. Les temps étaient durs, et Argensola, contraint par les circonstances à vivre loin de sa patrie, avait peut-être besoin d'argent. Si tel était le cas, Marcel se ferait un plaisir de lui venir en aide et mettrait des fonds à sa disposition. Il le ferait d'autant plus volontiers que toujours il avait beaucoup aimé l'Espagne, un noble pays qu'il regrettait de ne pas bien connaître, mais qu'il visiterait avec le plus grand intérêt après la guerre. Pour la première fois de sa vie, Argensola répondit à une telle offre par un refus, où il mit non moins de dignité que de gratitude. Il remercia vivement M. Desnoyers de la délicate attention et de l'offre généreuse. Mais, heureusement, il n'était pas dans la nécessité d'accepter ce service. En effet, Jules l'avait nommé son administrateur, et comme, en vertu des nouveaux décrets concernant le moratorium, la banque avait consenti enfin à verser mensuellement un 10% sur le chèque d'Amérique, son ami pouvait lui fournir tout ce qui lui était nécessaire pour les besoins de la maison. Quand la terrible crise fut passée, il sembla que la population parisienne s'accoutumait insensiblement à la situation. Un calme résigné succéda à l'excitation des premières semaines, alors que l'on espérait des interventions extraordinaires et miraculeuses. Argensola lui-même n'avait plus les poches pleines de journaux comme au début des hostilités. D'ailleurs, tous les journaux disaient la même chose, et il suffisait de lire le communiqué officiel, document que l'on attendait désormais sans impatience, car on prévoyait qu'il ne ferait guère que répéter le communiqué précédent. Les gens de l'arrière reprenaient peu à peu leurs occupations habituelles. « Il faut bien vivre, » disait-il. Et la nécessité de continuer à vivre imposait à tous ses exigences. Ceux qui avaient sous les drapeaux des êtres chers ne les oubliaient pas, mais ils finissaient par s'accoutumer à leur absence comme à un inconvénient normal. L'argent recommençait à circuler, les théâtres à s'ouvrir, les Parisiens à rire. Et si l'on parlait de la guerre, c'était pour l'accepter comme un mal inévitable, auquel on ne devait opposer qu'un courage persévérant et une muette endurance. Dans les visites que Marcel faisait à Argensola, il eut plusieurs fois l'occasion de rencontrer Tchernoff. En temps ordinaire, il aurait tenu cet homme à distance. Le millionnaire était du parti de l'ordre et avait en horreur les fauteurs de révolution. Le socialisme du Russe et sa nationalité même lui auraient forcément suggéré deux séries d'images déplaisantes. D'un côté des bombes et des coups de poignard, de l'autre des pendaisons et des exils en Sibérie. Mais depuis la guerre, les idées de Marcel s'étaient modifiées sur bien des points. La terreur allemande, les exploits des sous-marins qui coulaient à pic des milliers de voyageurs inoffensifs, les hauts faits des zeppelins qui, presque invisibles au zénith, jetaient des tonnes d'explosifs sur de petites maisons bourgeoises, sur des femmes et sur des enfants, avaient beaucoup diminué à ses yeux la gravité des attentats qui, quelques années auparavant, lui avaient rendu odieux le terrorisme russe. D'ailleurs, Marcel savait que Tchernoff avait été en relation, sinon intime, du moins familière avec Jules, et cela suffisait pour qu'il fît bon visage à cet étranger, qui d'ailleurs appartenait à une nation alliée de la France. Marcel et Tchernoff parlaient de la guerre. La douceur de Tchernoff, ses idées originales, ses incohérences de penseur, sautant brusquement de la réflexion à la parole, séduisirent bientôt le père de Jules, qui ne regretta pas certaines bouteilles provenant manifestement des caves de l'avenue Victor Hugo. Bouteille dont Argensola arrosait avec largesse l'éloquence de son voisin. Ce que Marcel admirait le plus dans le Russe, c'était la facilité avec laquelle celui-ci exprimait par des images les choses qu'il voulait faire comprendre. Dans les discours de ce visionnaire, la bataille de la Marne, les combats subséquents et l'effort des deux armées ennemies pour atteindre la mer devenaient des faits très simples et très intelligibles. Ah, si les Français n'avaient pas été harassés après leur victoire! Mais les forces humaines ont une limite, disait le Russe, et les Français, en dépit de leur vaillance, sont des hommes comme les autres. En 3 semaines, il y a eu la marche forcée de l'Est au Nord pour faire front à l'invasion par la Belgique, puis une série de combats ininterrompus, à Charleroi et ailleurs, puis une rapide retraite afin de ne pas être enveloppé par l'ennemi, et finalement cette bataille de 7 jours où les Allemands ont été arrêtés et refoulés. Comment s'étonner qu'après cela les jambes aient manqué aux vainqueurs pour se porter en avant, et que la cavalerie ait été impuissante à donner la chasse aux fuyards. Voilà pourquoi les Allemands, poursuivis avec peu de vigueur, ont eu le temps de s'arrêter, de se creuser des trous, de se tapir dans des abris presque inaccessibles. Les Français, à leur tour, ont dû faire de même, pour ne pas perdre ce qu'ils avaient récupéré de terrain, et ainsi a commencé l'interminable guerre de tranchées. Ensuite, chacune des deux lignes, dans le but d'envelopper la ligne ennemie, est allée se prolongeant vers le nord-ouest, et de ces prolongements successifs a résulté la course à la mer, dont la conséquence a été la formation du front de combat le plus grand que l'histoire connaisse. Optimiste malgré tout, Marcel, contrairement à l'opinion générale, espérait que la guerre ne serait plus très longue, et que dès le printemps prochain, ou au plus tard vers le milieu de l'été, la paix serait conclue. Mais Tchernoff hochait la tête. « Non, répondait-il, ce sera long, très long. Cette guerre est une guerre nouvelle, la véritable guerre moderne. Les Allemands ont commencé les hostilités selon les anciennes méthodes, mouvements enveloppants, batailles en rase campagne, plans stratégiques combinés par de Moltke à l'imitation de Napoléon. Ils désiraient finir vite et se croyaient sûrs du triomphe. Dès lors, à quoi bon faire usage de procédés nouveaux? Mais ce qui s'est produit sur la Marne a bouleversé leur projet. De l'offensive, ils ont été obligés de passer à la défensive, et leur état-major a mis en œuvre tout ce que lui avaient appris les récentes campagnes des Japonais et des Russes. La puissance de l'armement moderne et la rapidité du tir font de la lutte souterraine une nécessité inéluctable. La conquête d'un kilomètre de terrain représente aujourd'hui plus d'efforts que n'en exigeait il y a un siècle la prise d'assaut d'une forteresse, de ses bastions et de ses courtines. Par conséquent, ni l'une ni l'autre des deux armées affrontées n'avancera vite. Cela va être lent et monotone, comme la lutte de deux athlètes dont les forces sont égales. Mais pourtant, il faudrait bien qu'un jour cela finisse. Sans doute, mais il est impossible de savoir quand. Ce qu'il est dès maintenant permis de considérer comme indubitable, c'est que l'Allemagne sera vaincue. De quelle manière, je l'ignore, mais la logique veut qu'elle succombe. En septembre, elle a joué tous ses atouts, et elle a perdu la partie. Cela donne aux Alliés le temps de réparer leur imprévoyance et d'organiser les forces énormes dont ils disposent. La défaite des empires centraux se produira fatalement, mais on se tromperait si l'on imaginait qu'elle est prochaine. D'ailleurs, pour Tchernoff, cette immanquable déroute des nations de proie ne signifiait ni la destruction de l'Allemagne, ni l'anéantissement des peuples germaniques. Le révolutionnaire n'avait pas de sympathie pour les patriotismes excessifs, n'approuvait ni l'intransigeance des chauvins de Paris, qui voulaient effacer l'Allemagne de la carte d'Europe, ni l'intransigeance des pan-germanistes de Berlin, qui voulaient étendre au monde entier la domination teutonne. L'essentiel, c'est de jeter bas l'Empire allemand, et de briser la redoutable machine de guerre qui, pendant près d'un demi-siècle, a menacé la paix des nations. Ce qui irritait le plus Tchernoff, c'était l'immoralité des idées qui, depuis 1870, étaient nées de cette perpétuelle menace et qui contaminait aujourd'hui un si grand nombre d'esprits dans le monde entier. Glorification de la force, triomphe du matérialisme, sanctification du succès, respect aveugle du fait accompli, dérision des plus nobles sentiments, comme s'ils n'étaient que des phrases creuses, philosophie de bandit qui prétendait être le dernier mot du progrès et qui n'était que le retour au despotisme, à la violence et à la barbarie des époques primitives. Ce qu'il faut, déclarait-il, c'est la suppression de ceux qui représentent cette abominable tendance à revenir en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'il faille exterminer aussi le peuple allemand. Ce peuple a des qualités réelles, trop souvent gâtées par les défauts qu'un passé malheureux lui a laissés en héritage. Il possède l'instinct de l'organisation, le goût du travail, et il peut rendre des services à la cause du progrès. Mais auparavant, il a besoin qu'on lui administre une douche, la douche de la catastrophe. Quand la défaite aura rabattu l'orgueil des Allemands et dissipé leurs illusions d'hégémonie mondiale, quand ils se seront résignés à n'être qu'un groupe humain ni supérieur ni inférieur aux autres, ils deviendront d'utiles collaborateurs pour la tâche commune de civilisation qui incombe à l'humanité entière. D'ailleurs, cela ne doit pas nous faire oublier que, à l'heure actuelle, ils sont pour toutes les autres sociétés humaines un grave danger. Ce « peuple de maître », comme il s'appelle lui-même, est de tous les peuples celui qui a le moins le sentiment de la dignité personnelle. Sa constitution politique a fait de lui une horde guerrière, où tout est soumis à une discipline mécanique et humiliante. En Allemagne, il n'est personne qui ne reçoive des coups de pied au cul et qui ne désire les rendre à ses subordonnés. Le coup de pied donné par l'empereur se transmet d'échine en échine jusqu'aux dernières couches sociales. Le Kaiser cogne sur ses rejetons, l'officier cogne sur ses soldats, le père cogne sur ses enfants et sur sa femme, l'instituteur cogne sur ses élèves. C'est précisément pour cela que l'Allemand désire si passionnément se répandre dans le monde. Dès qu'il est hors de chez lui, il se dédommage de sa servilité domestique en devenant le plus arrogant et le plus féroce des tyrans.